Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité. Alors, nous sommes entrés dans cette église de Saint-Charles-Borromée et avec mon collègue, nous avons pris le temps de prier. C'est une très belle église. Et je peux vous dire aussi, les gens qui circulent, ce sont des pèlerins touristes, parfois des curieux, des gens de toutes les nations qui entrent dans ces monuments, dans ces églises, et avec leur portable, prennent des photographies de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils voient. Alors, nous avons pris le temps de prier, mais aussi de circuler. Et il y a un endroit qui est un peu moins fréquenté. Et pourtant, c'est un endroit important. C'est là où l'on conserve le cœur de Saint-Charles-Borromée, son vrai cœur physique. Vous savez, dans l'Église, il y a eu ces périodes de reliques, par exemple, où on conserve des éléments du corps du saint ou de la sainte et on en fait des reliques. Dans le cas de Saint-Charles-Borromée, il y a certainement d'autres reliques. Moi, j'ai vu la châsse à Milan, dans la cathédrale de Milan, j'ai vu la châsse où se trouvent les restes, le corps de Saint-Charles-Borromée. Mais souvent, on extrait du corps du saint ou de la sainte son cœur. Vous avez cette histoire qui n'est pas très loin de chez nous, le cœur du frère André. Hein? Donc, ce sont des reliques. C'est une manière de se souvenir non seulement de la personne, du saint par la relique, mais de son cœur. Alors, nous avons pris le temps de prier devant cette relique. Une relique, eh bien, ça le dit, ça nous relie. Hein, ça nous relie presque physiquement à la personne qui fut en ce monde un témoin. Témoin de l'amour, de la charité, de la tendresse du Christ au cœur de l'Église. Et on voit au-dessus du cœur, qui est non seulement représenté, mais qui est là, montré de façon ostensible, eh bien, il y a une sorte de toile où on a peint le saint, donc Saint-Charles-Borromée, qui est en train de porter son cœur et de le laisser presque s'envoler vers les hauteurs. Et là, il y a un mot qui est écrit. Et ce mot, on le retrouve ailleurs aussi, dans l'église de Saint-Charles-Borromée. Je vous laisse deviner deux secondes, quel est ce mot qui appartient à la personne de Saint-Charles-Borromée et surtout à son cœur? Que peut être ce mot? Je ne tarde pas à vous le révéler. Humilité. Eh bien, toute l'œuvre de Saint-Charles-Borromée, sa maison, elle est bâtie sur le roc de l'humilité. Et c'est pour ça qu'elle a tenu. C'est l'histoire de la parabole des deux maisons dans l'Évangile. L'une est bâtie sur le roc et l'autre, elle est bâtie sur le sable. Eh bien, dans la vie de Saint-Charles-Borromée, c'est l'humilité qui prend tout l'espace de son cœur et de sa pensée, et qui fera que naîtront des grands séminaires un peu partout en Europe et ailleurs, sous l'inspiration du cœur de Saint-Charles-Borromée, Et ce cœur, eh bien, c'est l'humilité qui l'anime. Tout le contraire serait l'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil ici. Quand l'humilité est célébrée, eh bien, c'est les deux pieds sur terre, là. Parce que l'humilité, elle vient de la terre. C'est le même mot. Humilitas, humus. L'humus, c'est la terre. Ça vient de la terre. Donc, ça vient de ce qui est humble, de ce qui est petit, de ce qui parfois est presque insignifiant. Mais ce n'est pas une insignifiance dans le sens où on pourrait l'entendre. C'est une petitesse. C'est la graine, la petite graine de semence qui va devoir mourir pour porter du fruit. Voici maintenant les épistolaires. Il s'agit de 17 parchemins de Bernardo di Perugia à son ami Béic dit la fleur. Vous serez au XIIIe siècle en Italie. Vous aurez compris que ce sont des personnages fictifs que j'ai inventés et dont je suis l'auteur. Fascinant. Prise de son, Yannick Caron. Musique et bruitage, François Couture. « Bien cher Béic, dit la fleur, vous aimez les lentilles? De grâce, faites-vous en servir un potage en mon nom. Je ne sais pourquoi, mais je pense aux lentilles depuis 3 jours dans ce jeûne qui se poursuit. Le manque nous sert toute une table de denrées. » dont il est difficile de se soustraire. Ne mangeant que peu, on a toutes sortes d'idées de remplacement. Fuyons ces pensées. J'ai été accueilli, cette fois-ci, par un richissime marchand de tissus, parent lointain du Francesco. Dans cette demeure du plus pur style italien, mes yeux sont comblés de tout ce que je vois. La beauté des appartements est indicible. Il doit y avoir une lutte intérieure entre ce que je vois et ma décision de jeûner. Qu'en pensez-vous? Un duel entre les lentilles et les fresques magnifiques. Mais les lentilles ne sont que dans mon esprit. Comprenez-vous cela? Sans doute que le jeûne creuse l'espace où s'affrontent ces réalités. Je vous supplie de manger en mon nom un potage de lentilles. Ces gens riches ont un chapelain fort distingué qui mange avec eux le dimanche. Autrement, il est seul dans une grande pièce aux belles fenêtres et dévore sur une table de marbre ce qu'on lui sert. Ni plus ni moins que la nourriture des maîtres. 2 servantes lui sont dédiées. On a donc décidé que je mangerai avec lui. Mais j'ai fait connaître ma décision de jeûner. Le chapelain parle beaucoup de ses voyages et des rencontres qu'il fait. Parmi ces dernières, il y en a une qui est fort intéressante. Il a en effet rencontré un Espagnol qui ne jurait que par le Sant'Antonio di Padova. Le chapelain italien lui a alors fait le reproche qu'ici en Italie, nous devions être dévots envers le Francesco d'Assisi. Il ne tolérait point que l'Espagnol ne soit pas italien quand il est en Italie, y compris dans ses dévotions. Comme si nous devions manger seulement ce que le pays produit. Un peu courte comme réflexion. Je lui répondis que le saint de Padova était né à Lisboa, au Portugal. Il fut surpris. L'Espagnol et l'Italien étaient tous deux ignorants. Il insista pour dire qu'il fallait honorer les saints dans leur pays d'origine. De ce fait, en Italie, c'était le Francesco. J'osais lui demander où se trouvait notre Seigneur. Il répondit « En Italie ». N'est-il pas aussi en Espagne ou au Portugal, lui dis-je ? Il est plus présent en Italie, répliqua-t-il. Alors, je me levai de table et lui dis : Je vous laisse avec vos olives de Provence, vos raisins de Malte, votre vin de Lutèce, vos oignons du Caire, vos épices d'Asie et votre poisson de la Méditerranée. En quittant définitivement la salle, alors que j'étais sur le seuil, il ajouta « Où pouvons-nous trouver des lentilles ?» Je répondis « Là où se trouve notre Seigneur. Il y a de ces gens dont les esprits tordus vous enfourchent les entrailles de feu, tant ils sont obtus et fluides. Pourquoi fluides ? Parce qu'ils n'ont pas de consistance autre que celle de leur divagation qu'ils prennent pour des vérités absolues. Je quitte cet endroit cette nuit, pour ne pas être vu, au risque qu'on me prenne pour notre Seigneur déguisé en mendiant. Si vous voyez votre cousine, mais peut-être ne la voyez-vous jamais, rappelez-lui que notre Seigneur est aussi à San Damiano, en Italie. Il n'y a aucune question à ses réponses. Priez pour moi, et le chapelain. Bernardo di Perugia.
C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.